Donc nous avons beaucoup chanté dans notre... Ce thème est revenu dans notre moment de louange, de nous approcher de Dieu, de venir à lui avec des cris de joie. On a chanté tout l'encouragement que nous avons de nous approcher de lui. Et ce sera le thème du message d'aujourd'hui. C'est pas fait exprès du tout. Vous verrez que le sujet, on est dans le livre des rois depuis plusieurs semaines. Et bon, tous ceux qui nous visitent vont se trouver parachutés comme ça, en 2000 ans en arrière. Mais où est-ce qu'on est là? Où est-ce que nous conduit ce texte? Quel est ce texte de la Bible? Bon, il va y avoir un petit handicap pour vous, donc je m'en excuse. La semaine dernière, nous avons vu la construction du temple de Salomon, ce grand roi qui avait reçu la mission, il avait été désigné par Dieu et par son père pour construire un grand temple pour l'adoration du Seigneur en Israël. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de lieu désigné où on devait adorer le Seigneur, et c'était un problème parce que Moïse avait promis qu'il y aurait un lieu où on adorerait Dieu. Et donc, on a vu la construction de ce temple, comment il était glorieux, comment il était beau. Et le titre du message, c'était « Dans la palais de l'Éternel, tout s'écrit gloire ». Tout s'écrit gloire, et tout a été détaillé dans le livre des rois, au chapitre 6, et comment 5 et 6, comment Salomon s'y est pris. Toutes ces détails, toutes ces décorations étaient cependant temporaires dans l'attente d'un temple céleste qui serait beaucoup plus gros, beaucoup plus grand et beaucoup plus beau. Et la parole de Dieu nous en parle. Et chaque chrétien, tel des pierres vivantes, est aujourd'hui partie prenante de ce temple. Alors, dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit gloire, et j'espère que quand nous sommes dans ce moment de louange, effectivement, on a entendu gloire, gloire à Dieu parmi nous. C'était une construction faite de pierres, de bois et d'or. Et aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation d'autres matériaux pour un autre usage. Il s'agit du bronze. Le bronze, c'est, me semble-t-il, dans notre texte qui va ressortir, c'est le bronze, c'est le métal, la matière pour les prêtres, pour les sacrificateurs de l'Éternel. Et le titre du message d'aujourd'hui, donc, le roi s'occupe des prêtres. Deux points, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce dans ce palais où tout s'écrit gloire. On va voir que le roi se place après Dieu, qu'il fait construire deux colonnes à l'entrée du temple, des réservoirs d'eau pour rentrer dans le temple, et qu'il a soin que l'ouvrage soit terminé. L'ouvrage devait être terminé pour, on va voir la suite, la semaine prochaine. Le roi se place après Dieu. Le roi n'a pas la première place. Dieu a la première place. Lisons 1 roi, chapitre 7, versets 1 à 12. 1 roi, chapitre 7, versets 1 à 12. Après avoir construit le temple, Salomon construisit encore son palais, sa maison. Dit. Cela prit 13 ans jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement terminé. Il construisit d'abord le bâtiment appelé Maison de la forêt du Liban. Il était long de 50 mètres, large de 25 et haut de 15. Il était construit sur 4 rangées de colonnes en cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres supportées par les colonnes et il y avait 45, soit 15 par étage, et il y avait 3 étages. À chaque étage se trouvaient des fenêtres, les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes, tous les poteaux étaient faits de poutres, de forme rectangulaire. À chacun des 3 étages, les ouvertures se trouvaient les unes vis-à-vis des autres. Verset 6, chapitre 7, 1 roi 7, verset 6. Il fit le portique des colonnes, long de 25 mètres, large de 15, ainsi qu'un autre portique par devant avec des colonnes et un auvent sur la façade, un portique ou un vestibule, l'entrée donc du bâtiment principal. Il fit le portique du trône, ou portique du jugement, où il rendait la justice, et il couvrit de cèdre, il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Verset 8. Son bâtiment d'habitation fut construit de la même manière, dans une autre cour derrière le portique. Il fit un bâtiment du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées sur mesure, sciées à la scie, sur leur face intérieure et extérieure. On employa ces pierres depuis la fondation jusqu'aux corniches et à l'extérieur jusqu'à la grande cour. Les fondations étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 5 et de 4 mètres. Au-dessus, il y avait de magnifiques pierres taillées sur mesure et du cèdre. Tout autour de la grande cour, il y avait 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme pour le parvis intérieur et le portique de la maison de Dieu. Comme pour le parvis intérieur et le portique de la maison de Dieu. 3 habitations sont décrites ici. Et la première, c'est la maison de la forêt du Liban. Alors, peut-être que pendant des siècles, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette maison tout en bois comme ça? Ben, maintenant, les maisons en bois sont revenues à l'honneur. Hein. Elles sont durables, elles sont bioclimatiques, on leur trouve toutes sortes de qualités. Et le matériau dont elles sont constituées, le cèdre, est un bois qui a la propriété de ne pas pourrir, d'être résistant aux insectes et d'être très beau. La maison de la forêt du Liban pour offrir l'hospitalité. On voit 40, bon, il est des, on parle de 45 chambres, j'ai mesuré la surface de chacune, quand même dans les 70 mètres carrés, on dirait aujourd'hui 45 appartements. 45 appartements. Le premier souci du roi a été de pouvoir recevoir, d'avoir de l'hospitalité, que sa maison soit spacieuse. Et 45 pièces, 45 chambres, 45 logements qui étaient tous, semble-t-il, identiques les uns aux autres. Alors, on n'a pas les détails de la construction. Moi, je me demande toujours comment étaient les facilités, comment étaient les escaliers, comment on se déplaçait, comment. Alors, vous pouvez imaginer ce qu'il vous conviendra pour imaginer cette maison tout en bois, avec ses poutres, ses colonnes, c'est peut-être des très grandes portées, des poutres bien plus grandes que celles que nous avons au-dessus des yeux, des portées beaucoup plus importantes, et ce devait être quelque chose de formidable à voir. La maison de la forêt du Liban pour offrir l'hospitalité. Ensuite, il est question de la maison du roi, très brièvement, et de la maison d'habitation de la reine, construite sur le même principe. 3 habitations. Il ne faut pas chercher dans le livre des rois un référentiel en ce qui concerne la vie conjugale. Pas du tout. Ça démarre avec l'histoire de David, qui a été un roi polygame, c'est connu de tous, et qui n'a pas été un modèle de ce côté-là. Si vous voulez chercher des références en ce qui concerne la vie conjugale, comment un homme et une femme habitent ensemble, font même chair, il faut aller chercher, vous orienter plutôt vers la vie d'Abraham et de Sarah, vous trouverez beaucoup plus d'instructions pour votre vie de couple que dans l'histoire des rois, d'Israël et de Juda. En tout cas, il y a la maison du roi, la maison de la reine, qui était la fille de Salomon. Bon, c'était, il y a sans doute beaucoup de références à la culture de l'époque. Je m'attarde pas dessus. Ces habitations sont presque comme le temple, mais elles sont inférieures. On retrouve un petit peu les mêmes proportions, hein, un tiers, deux tiers, un tiers de largeur, deux tiers de longueur. On retrouve presque les mêmes matériaux de construction, le bois, le cèdre, la pierre, mais nulle trace d'or. Nulle trace d'or dans la construction, comme on l'a vu pour le temple de l'Éternel qui était entièrement revêtu d'or. Alors vous êtes peut-être surpris par ces pierres sciées, les questions de pierres sciées à la scie. Et là, nous sommes 3000 ans en arrière, ou presque. Et puis c'est le début de l'âge du fer, nous disent les historiens. Alors comment ici, aujourd'hui on n'a pas de problème, on a des machines pour scier les pierres avec des câbles en acier très durs qui font ça. Mais à l'époque, comment pouvait-il scier des pierres? J'ai ma petite idée là-dessus. Bon, si vous êtes intéressé par ce sujet, je peux vous le partager. Je ne m'étendrai pas là-dessus. En tout cas, les pierres sédimentaires, il faut savoir qu'elles durcissent quand elles sont mises à l'air. Et donc, c'était certainement très possible. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut faire confiance à la parole de Dieu et nous représenter des belles pierres. Des belles pierres. Presque comme le temple, mais inférieur, pas plus haut, peut-être plus grande. Mais en tout cas, les matériaux de construction n'ont rien à voir. Le roi se place après Dieu. Il n'a pas la première place. Dieu a la première place. Amen. Ensuite, le roi fait construire deux colonnes à l'entrée du temple. Alors, on ne trouve aucune mention de ces colonnes dans le tabernacle du désert. Il y a une question des poteaux qui délimitaient le parvis, mais on ne retrouve pas de telles colonnes de bronze telles qu'elles sont décrites ici. Et donc ça a de quoi éveiller notre curiosité. Alors je vais lire la description de ces colonnes maintenant. Donc il faut imaginer la fin de la construction du temple. Le bâtiment est fini. Les bâtisseurs vont enchaîner pour construire les maisons pour le roi Salomon, et donc en parallèle maintenant l'aménagement du temple se poursuit. Le roi Salomon, verset 13, fit venir de Tyr un certain Hiram. C'était le fils d'une veuve, membre de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien. Il travaillait le bronze. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour fabriquer toutes sortes d'objets en bronze. Et il arriva auprès du roi Salomon et il réalisa tous ses travaux. Il fit deux colonnes de bronze. La première faisait 9 mètres de haut. Et on pouvait mesurer la circonférence de la seconde avec un fil de 6 mètres, 3 mètres de diamètre, 2 mètres de diamètre donc. Il fit deux chapiteaux de bronze pour les mettre sur le sommet des colonnes. Le premier faisait 2,5 mètres de haut, tout comme le second. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînette pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes. 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second. Il fit deux rangées de grenades autour de l'un des treillis. Donc, représentation des fruits de la grenade que nous connaissons. Pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes, et il fit de même pour le second. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes placés dans le portique représentaient des lits et faisaient 2 mètres. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de 200 grenades. En haut, près du renflement qui dépassait le treillis, il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple, donc à l'entrée. Il dressa la colonne de droite et l'appela Jachin, puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. Et il y avait sur le sommet des colonnes une sculpture qui représentait des lys. Ainsi furent terminées la fabrication des deux colonnes. deux colonnes identiques, mais différentes. Vous avez remarqué un petit peu la lecture. On aurait dit, nous, il fait deux colonnes et on en décrivait une. Quand on décrit une, on décrit l'autre. Mais ce n'est pas ainsi que le texte le présente. Quoique identiques, elles sont présentées comme différentes. Il y a la première colonne et il y a la seconde colonne. Je vois ici l'illustration que Dieu ne fait pas de copier-coller, comme nous. Il ne fait pas de la fabrication en série. Chaque création de Dieu, chaque créature de Dieu est unique, quoique parfois semblable. Les colonnes étaient différentes. Des colonnes identiques, mais différentes. Des colonnes qui parlent au cœur. Ce n'est pas sans appréhension que les sacrificateurs, les prêtres, devaient rentrer à l'intérieur du sanctuaire pour mettre en place les pains, pour faire brûler le parfum qui représente l'adoration et pour également entretenir les lampes qui devaient briller sans arrêt à l'intérieur du sanctuaire. Et ce n'est pas sans appréhension donc qu'ils devaient rentrer dans ce lieu entièrement consacré à Dieu, entièrement doré. Et pour cela, donc, il devait passer entre les deux colonnes, à l'extérieur du temple, avant de passer de franchir les portes. Il y avait ces deux colonnes. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces deux colonnes? Ces deux colonnes ont des noms, Jakin et Boaz. Jakin, ça signifie il affermit, et Boaz, en lui soit la force. Et donc, chaque fois que le sacrificateur passait, il voyait ces colonnes impressionnantes et il savait que Dieu a fermé. C'est Dieu qui allait permettre au sacrificateur de se tenir debout dans le temple, de pouvoir faire son service. À lui soit la force, l'autre colonne, à lui est la force. Ce n'est pas par ses propres forces qu'ils n'allaient pas pouvoir faire le service. Mais c'est par la force que Dieu donne un encouragement à s'approcher de Dieu, sachant que c'est lui qui nous fait tenir ferme, sachant que c'est lui et pas nous, par nos propres forces, que nous pouvons nous approcher de lui. Des colonnes qui parlent au cœur des prêtres. Des colonnes inamovibles. Elles étaient massives, elles étaient imposantes. Il faut 2 mètres de diamètre, ça fait quand même un bon peu, tout en bronze. J'ai jamais vu de construction de bronze comme ça. Moi, personnellement, ça faisait plus de 12 mètres de haut. Donc, représente un immeuble de 4 étages, hein, une maison de 4 étages. C'était vraiment impressionnant, c'était massif, c'était lourd, c'était inamovible. Et dans les faits, les colonnes resteront en place, à leur place, et porteront leur message jusqu'à la destruction du temple qui a eu lieu par Nebuchadnezzar, le roi qui jugera, que Dieu utilisera pour juger le peuple d'Israël. Ça sera beaucoup plus loin, ça sera presque 4 siècles après, et pendant 380 ans, que le temple est resté en place, malgré que les successeurs du roi de Salomon ont été parfois des rois vraiment qui ont malmené le temple, qui ont voulu faire toutes sortes de transformations, ces colonnes n'ont jamais bougé de place. Elles étaient inamovibles, elles étaient massives, elles étaient lourdes, elles étaient posées, et personne ne pouvait les bouger, et leur message était maintenu. Jakin, Dieu a fermé. Boaz, à lui, à Dieu, soit la force. Le roi continue ses constructions en faisant des réservoirs d'eau pour rentrer dans le temple. Le sanctuaire de Moïse était pourvu d'une cuve. Entre l'autel et le tabernacle, il y avait la cuve des ablutions. Et avant de rentrer à l'intérieur, le prêtre, le sacrificateur, devait se laver les pieds, se laver les mains, systématiquement. On ne rentrait pas à l'intérieur sans s'être lavé les pieds, sans s'être lavé les mains. Et quand on voulait s'approcher de l'autel également, des offrandes, on ne s'approchait pas de l'autel sans s'être lavé les pieds et sans s'être lavé les mains. On n'a aucune indication des dimensions de cette cuve qui était à l'usage des prêtres et des sacrificateurs. Voici la description qu'il y a en effet dans le temple de Salomon. On lit la suite du texte. Il fit une cuve en métal fondu. Elle faisait 5 mètres d'un bord à l'autre et était entièrement ronde. Elle faisait 2,5 mètres de haut et l'on pouvait mesurer sa circonférence avec un cordon de 15 mètres. Donc, 5 mètres de diamètre, hein, c'est ce qui est noté. Des coloquintes en faisaient le tour sur le rebord, 20 par mètre. Sur tout le pourtour de la cuve disposé sur 2 rangs, les coloquintes avaient été fondées avec elles d'une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, 2 tournés vers le nord, 2 tournés vers l'ouest, 2 tournés vers le sud et 2 tournés vers l'est. La cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était à l'intérieur. Elle était épaisse de 8 cm et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la forme d'une fleur de lys et elle pouvait contenir 44 000 litres. Il fit les 10 bases en bronze. Chacune faisait 2 mètres de long, 2 mètres de large et 1,5 de haut. Voici en quoi consistaient ces bases. Elle était formée de panneaux attachés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants figuraient des lions, des bœufs et des chérubins. Sur les montants au-dessus, comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons, en franges, on pourrait dire. Chaque base avait 4 roues en bronze avec des essieux en bronze. Aux 4 angles se trouvaient des épaulements en métal fondu au-dessus du bassin, plus bas que les festons. Le couronnement d'une base présentait à l'intérieur une ouverture qui se prolongeait de 50 cm vers le haut. Elle était ronde, comme pour les objets de ce genre. Elle faisait 75 cm de large et il y avait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés, non arrondis, les 4 roues se trouvaient sous les panneaux et les essieux des roues étaient fixés à la base. Chacune roue faisait 75 cm de haut. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leur essieu, leur jante, leur rayon, leur moyeu, tout était en métal fondu. Il y avait 4 angles de chaque côté, 4 épaulements de la même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle de 25 cm de hauteur et ses appuis et ses panneaux étaient faits de la même pièce. Sur les plaques des appuis, sur les panneaux, il grava des chérubins, des lions, des palmes, en fonction de la place disponible, ainsi que des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les 10 bases. Le métal fondu, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit 10 bassins en bronze. Chaque bassin pouvait contenir 880 litres, faisant 2 mètres et reposant sur l'une des 10 bases. Il plaça les 5 bases sur le côté droit du temple et les 5 autres sur le côté gauche. Quant à la cuve, il la plaça du côté droit du temple au sud-est. La cuve qui était aussi appelée la mer, tant elle était grande. Un réservoir principal, donc, et des réservoirs mobiles. La mer était de grande capacité, elle devait être d'un poids phénoménal. Il est dit 44 tonnes d'eau, hein, 1000 litres, 1 mètre cube, ça fait une tonne. Et elle était placée sur les 8 bœufs, et donc les bœufs, ils les regardaient tous dans une direction différente. Alors, ce qui fait que cette mer, cet immense réservoir n'était pas destiné du tout à se déplacer. Il n'y avait pas de direction précise. Et en même temps, on avait l'impression qu'elle pouvait aller dans n'importe quelle direction. Par contre, hein, 12, que j'ai dit 8, 4, 3, 3, 3, pardon. Merci. 10 autres réservoirs de 800 litres qui étaient mobiles, qui étaient sur les rues, sur les roues. Et donc, on peut imaginer que quand les réservoirs étaient vides, on les approchait, mobiles, on les approchait de la grande cuve. Et là, il devait y avoir, j'imagine, des robinets pour remplir chacune des cuves et ensuite les pousser et les amener à leur lieu, là où elles étaient disposées, donc tout autour du temple. 10 points d'accès, donc, autour du temple, à l'usage des sacrificateurs. Et cela faisait quelques 50 mètres cubes d'eau, de réserve d'eau, ce qui permet de, comme on dit, de voir venir et de pouvoir affronter sereinement les périodes de sécheresse sans s'inquiéter. De l'eau en abondance et de l'eau pour tous les prêtres. Les sacrificateurs descendants d'Aaron, bien sûr, cette famille s'était agrandie, ils étaient nombreux maintenant, et s'il n'y avait eu qu'une seule cuve, qu'un seul endroit pour les ablutions, ça aurait été, comme on dit, l'embouteillage, et que ce soit pour faire les sacrifices, que ce soit quand il s'agissait d'entrer dans le temple. Et donc, Salomon avait prévu à 10 points où l'on pouvait prendre l'eau pour se laver, pour faire les ablutions. Sans ce dispositif, le travail simultané d'un grand nombre de prêtres n'aurait pas été possible. Et le roi termine enfin l'ouvrage. À la fin du chapitre 6, on voit que la construction du bâtiment est terminée, et là, on va lire les textes qui précisent que l'ensemble, le bâtiment et l'ensemble de ses équipements vont être terminés. Salomon a tout fait jusqu'à la fin, jusqu'à l'achèvement. Alors, on a un récapitulatif de toutes les constructions en bronze, en un premier temps. Verset 40. Hiram fabriqua encore des cendriers, des perles, des coupes, tout ce qu'il faut donc pour le travail des sacrificateurs. Et c'est ainsi qu'Hiram termina tout le travail que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. 2 colonnes avec 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, 2 treillis, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets sur le chapiteau et sur le sommet des colonnes, et 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis, pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 10 bases avec les 10 bassins qui vont au-dessus, la cuve et les 12 bœufs qui sont au-dessous de la cuve, donc les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient en bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa faire tous ses ustensiles sans vérifier le poids du bronze, tant il y en avait. Donc voici le récapitulatif de toutes ces constructions en bronze. Tout ceci était à l'usage des sacrificateurs, à l'usage des prêtres. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le métal à l'honneur d'un autre texte, c'est le bronze, c'est le métal des sacrificateurs. Récapitulatif ensuite de ce qui est construit en or, pour Dieu donc. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel. L'autel en or, l'autel des parfums. La table en or sur laquelle on mettait les pains consacrés. Les chandeliers en or pur. 5 à droite, 5 à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes, les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses, les brûle-parfums en or pur, les gonds en or pour la porte située à l'intérieur du temple, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la salle située à l'entrée du temple. Le mobilier et les accessoires du temps de Moïse semble avoir été au minima restauré, du moins renouvelé et même multiplié, puisqu'il n'y avait qu'un seul chandelier maintenant. 10 autres chandeliers vont être installés à l'intérieur du lieu saint. Un nouveau départ, tout ce qui concerne le temps des juges, où chacun faisait ce qui lui semble bon, est effacé. Un nouveau mobilier, tout est neuf, tout est nouveau, tout est brillant, tout est prêt, tout est terminé. Verset 51. Ainsi fut terminé tout le travail que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or, les ustensiles que son père David avait consacrés et il les mit parmi les trésors de la maison de l'Éternel. Tout semble prêt pour que la bénédiction d'Israël annoncée par Abraham se trouve concrétisée dans toute sa plénitude. Il y a un roi sage à la tête du pays et qui aime l'Éternel. Il y a un pays prospère et en paix. Et il y a un lieu de culte clairement désigné et parfaitement agencé. Alors, que manque-t-il encore? Comme pour le tabernacle dans le désert, il manque l'essentiel. Il manque la présence de Dieu. À Lévitique, nous lisons ceci. 26, 11 à 13. J'établirai mon habitation au milieu de vous. Je ne montrerai plus de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, qui vous a tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous. Je vous ai fait marcher la tête haute. Et dans l'histoire à suivre, je vous laisse deviner ce que ce sera la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc la semaine d'après, dans deux semaines, on verra le chapitre 8, ce qui manque d'essentiel au temple de Salomon. Comment nous raccrocher à cela maintenant? Comment il nous donne tout ça? Alors le titre que j'avais choisi, le roi s'occupe des prêtres, approchant avec assurance du trône de la grâce. Le roi Salomon n'avait pas fait fondre ses tonneaux d'airain pour lui-même. Est-ce que c'était pour les sacrificateurs? Oui, mais à travers les sacrificateurs, c'était pour les besoins spirituels de tout le peuple. Tous les chrétiens sont des prêtres dans la nouvelle alliance. Et c'est là où nous sommes interpellés. Dans la première lettre de Pierre, nous trouvons ce passage qui concerne tous les chrétiens. « Vous êtes un peuple choisi, a-t-il écrit, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, 1 Pierre 2:9. » L'Épître aux Hébreux nous encourage à entrer dans la présence de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Où sont les colonnes de bronze pour les chrétiens? Où sont les colonnes de bronze que le roi Jésus a données à son Église? Où sont les jacquines inébranlables qui nous disent « Dieu affermira » Où sont les boases massifs qui nous disent « En Dieu est la forme » Qui va fortifier notre foi? Vous l'avez compris, dans l'Église de Jésus, les hommes, les colonnes, ce sont des hommes et des femmes. L'Église dans son ensemble est appelée la colonne et l'appui de la vérité, 1 Timothée 3:15. Les apôtres Pierre, Jacques et Jean sont considérés comme des colonnes dans l'Église de Jérusalem de leur temps, Galates 2:9. Et nous avons les écrits de ces colonnes qui sont là pour nous affermir, qui sont là pour nous rappeler que c'est Dieu qui nous fait tenir debout, que c'est Dieu qui est la vraie force. Il y a ce magnifique texte également qui nous concerne, nous tous, nous aussi. Nous pouvons être des colombes dans le temple de l'Éternel. Voici ce qui est écrit, voici ce que Jésus lui-même a écrit à l'église de Philadelphie. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colombe dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon Dieu nouveau. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colombe. Apocalypse 3, 12. Les colombes, donc, ce sont nos frères et ce sont nos sœurs qui nous encouragent, qui nous fortifient dans la foi, en nous rappelant les promesses de Dieu. Où sont les cuves d'ablution des chrétiens ? Il est écrit, Jésus est venu avec de l'eau et du sang. 1 Jean 5,6. Et aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Nous lisons dans l'épisode où Jésus a lavé le pied de ses disciples. Donc, Jean chapitre 13, verset 10. Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Et donc, vous l'avez compris, il ne s'agit pas ici de l'eau du robinet. Ce dont un chrétien a besoin n'est pas de l'eau du robinet, il n'a pas non plus besoin de l'eau d'un bénitier. C'est par la repentance et la foi dans le sacrifice parfait de Christ à la croix, il y a 2000 ans, que nous trouvons le pardon et la vie éternelle. Une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés, nous sommes enfants de Dieu, mis à part. Mais pour le temps, nous ne sommes pas parfaits. Et nous ne devons pas manquer de nous laver les pieds. Nous laver les pieds chaque fois que nous nous approchons de Dieu par la prière pour offrir notre adoration. Nous laver les pieds chaque fois que l'on commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre sacrifice expiatoire. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec vous, mais je crois que ces cuves sont qui tiennent et qui apportent l'eau, sont aussi les frères et les sœurs de l'Église. Nous nous encourageons les uns les autres à marcher dans la sainteté, à veiller à la pureté de nos vies. Et nous nous encourageons et c'est Dieu qui nous purifie. C'est Dieu qui nous lave complètement de tous ces péchés dont nous n'avons pas conscience. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Purifie notre conscience, parfaitement purifiée. Demandez pardon pour tout ce que nous ignorons. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Lisons-nous dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, 10. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit gloire et nous sommes invités à nous approcher. Amen. Oui, Seigneur. Combien il est difficile de nous représenter tout ce qui concernait le temple de Salomon. Et s'il n'y a pas plus de précision que ça, c'est pour que nous puissions pas nous faire une représentation trop précise et en même temps essayer de comprendre tous ces objets
la valeur qu'elles avaient, la position qu'elles avaient, comment tout était organisé, tout était parfait pour que le service de Dieu soit assuré, pour que l'on puisse dire Dieu est réellement présent parmi son peuple. Et Seigneur, nous voulons que tu sois présent parmi nous. Alors, merci parce que tu as tout pourvu. Merci pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Merci parce que les uns les autres, nous pouvons nous encourager, nous exhorter. Et nous pouvons, chaque dimanche, reconstituer ce temple fait de pierres vivantes et avoir l'assurance de ta présence au milieu de nous. Merci que nous puissions vivre et apprécier ce grand privilège que nous avons, comme les sacrificateurs l'avaient à l'époque, où ils pouvaient, dans sa précaution, rentrer dans le lieu saint. Par Jésus.